bonjour à tous. Cette semaine, on s'enfonce dans les ténèbres aux côtés des travailleurs de nuit, des noctambules et des marchands de sommeil.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nouvelle série consacrée à l'économie de la nuit, à cette effervescence qui s'empare de la ville à la tombée du jour. L'homme peut-il être un animal nocturne? Pour le savoir, demain, nous suivrons les pas des travailleurs arrachés au sommeil. Mercredi, la nuit sera blanche et jeudi, nous la passerons aux côtés des sans-abri. Mais pour l'heure, penchons-nous sur les images satellites qui nous offrent un aperçu éclair de la croissance entre les régions plongées dans l'obscurité et celles qui brillent de mille feux. Il est 14h sur France Culture et l'écho de la nuit est parvenu jusqu'à nous. Nous parlons aujourd'hui du recul de l'obscurité en compagnie d'Anna Créty, professeure à l'université Paris-Dauphine et directrice de la chaire économie du climat, en compagnie également de Samuel Chaléa, géographe, chercheur invité au laboratoire Géode à Toulouse et auteur de cet ouvrage « Sauver la nuit » paru aux éditions Premier Parallèle. À 14h50, les nouvelles de l'écho vous seront présentées, comme chaque jour, par Xavier Martinet. Anna Créty et Samuel Chaléa, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Tiphaine.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors ce que nous apprennent les images satellites de la Terre, c'est que la lumière artificielle est très inégalement répartie sur la surface du globe. C'est la première conclusion qu'on peut en tirer, Anna Créty.
Inégalement répartie et d'intensité aussi différente, un peu comme les ressources naturelles. D'ailleurs, il serait intéressant de superposer les deux cartes qui verraient des inégalités différentes dans la mesure où là où on produit et on consomme n'est pas nécessairement l'endroit le plus égal en fait sur la surface de la Terre. Mmh. Et donc cela est une sorte de clé de lecture du développement et de son évolution dans le temps.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, d'un côté, il y a 840 millions de personnes qui n'ont actuellement pas accès à l'électricité. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Et de l'autre, certaines zones comme Singapour qui sont tellement saturées de lumière qu'un jour permanent semble y régner, Samuel Chaléa.
Effectivement, un jour permanent y règne et la ressource obscurité, puisqu'on parlait de la notion de ressource là qui va émerger, j'imagine au fil de cette émission, la ressource obscurité est dans ces pays-là complètement érodée. En fait, c'est intéressant cette image satellitaire de la Terre vue de nuit. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est à quel point elle est devenue une icône environnementale aussi pour transcrire l'idée, la notion d'anthropocène, justement cette idée de pays des nords face au pays des suds qui serait dispendieux, notamment du point de vue énergétique.
Alors on va voir qu'effectivement, du côté du Nord, on dénonce pour certains les excès de lumière et la pollution lumineuse, tandis que dans un certain nombre de pays du Sud, il y a encore beaucoup de progrès à faire en termes d'électrification. Mais d'abord, comment la lumière artificielle s'est-elle propagée dans les pays riches? Historiquement, en France, l'éclairage public apparaît sous Louis XIV, Anna Créty, avec d'abord l'objectif d'assurer la sécurité des rues.
Oui, donc l'introduction de cette forme un peu de progrès est arrivée de façon très lente, je dirais, et l'usage en fait des premières ressources permettait d'abord d'assurer la sécurité, donc une fonction publique, une fonction régalienne de l'État, qui a été un peu un fil conducteur aussi du développement du chemin vers l'électrification. Et ce n'est qu'ensuite en fait que ces biens ont pris plutôt les contours d'une facilité qui accompagnait la vie quotidienne. Donc l'éclairage a toujours eu cette double dimension, un bien public et un bien privé.
Alors facilité qui permet des opportunités économiques, puisque avec les premiers becs de gaz qui apparaissent au début du 19e siècle, il y a un éclairage public qui monte en puissance et qui permet peut-être un certain développement de l'éclairage commercial, Anna Créty.
Dans cette logique justement du bien privé, l'énergie a été un essor énorme pour plusieurs formes de progrès technologiques. Et d'ailleurs, on peut retranscrire même l'histoire de l'humanité en retraçant tous les grands enjeux de technologie qui se cachent en fait derrière l'histoire de l'énergie. Et à fur et à mesure, l'énergie a été intégrée dans les processus de production, à chaque fois avec une technologie différente, avec un objectif différent et un secteur différent. Ce qui a fait que, en fait, la racine de ces liens entre développement économique et usage de l'énergie est très, très enracinée, en fait, dans l'histoire même de son émergence.
Avant même l'arrivée de l'électricité à la fin du 19e siècle, Samuel Chalea, il y a cet enjeu, ce bouleversement de l'espace public dû à ce développement de la lumière.
Effectivement, je pense que la notion d'espace public est intrinsèquement liée à l'éclairage artificiel nocturne et à l'éclairage public aujourd'hui. C'est intéressant ce triptyque là qui traverse l'histoire de l'éclairage. On éclaire pour surveiller, on éclaire pour circuler, pour faciliter la circulation, et puis on éclaire pour embellir la ville aussi, de plus en plus depuis les années 80 avec ces fameux plans lumière, schéma directeur d'aménagement lumière, etc. Donc il y a toute une période. Ça, en fait, l'éclairage de la ville nocturne va suivre les évolutions de la façon dont on conçoit l'urbain et dont on conçoit la ville, et notamment on le voit avec toute la période fonctionnaliste depuis les années 1930, où on va normaliser les façons d'éclairer pour surveiller, circuler, embellir.
Restons encore un peu au 19e siècle, si vous le voulez bien. Je vous propose d'écouter une lecture d'un extrait de Notre-Dame de Paris. Nous sommes en 1831.
Ces êtres, peu prodigues de leur visage, n'étaient pas de ceux qu'on voit passer dans les rues. Le jour, fatigués des nuits farouches qu'ils avaient, ils s'en allaient dormir, tantôt dans les fours à plâtre, tantôt dans les carrières abandonnées de Montmartre ou de Montrouge, parfois dans les égouts. Ils se tairaient. Ces hommes-là, quand, vers minuit sur un boulevard désert, on les rencontre ou on les entrevoit, sont effrayants. Ils ne semblent pas des hommes, mais des formes faites de brumes vivantes. On dirait qu'ils font habituellement bloc avec les ténèbres, qu'ils n'en sont pas distincts, qu'ils n'ont pas d'autre âme que l'ombre. Et c'est momentanément, et pour vivre pendant quelques minutes d'une vie monstrueuse, qu'ils se sont désagrégés de la nuit. Que faut-il pour faire évanouir ces larves ? De la lumière à flot. Pas une chauve-souris ne résiste à l'aube. Éclairer la société en dessous.
Voilà, un extrait lu en direct par Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Qu'est-ce que ça vous inspire ce texte, Anna Kriti ? Il y a déjà cette idée que la lumière est ce qui éloigne les indésirables de la société ?
Il y a, je pense, presque un jeu de mots entre la lumière et la conséquence de la lumière et la sortie de l'obscurité. Donc faire la lumière sur quelque chose signifie la déconstruire, arriver à capter tous les aspects importants. Donc là, c'est directement lié à un enjeu de vie civile, dans laquelle justement la lumière permet d'avoir une identité sociale acceptable.
Donc la lumière vient aussi révéler les mots, et notamment les vagabonds.
Les hommes même, oui, là, elle surgit comme un élément vraiment de civilisation encore avant celui d'humanité, je dirais.
Sur cet enjeu de civilisation qui est évoqué ici par Victor Hugo, Samuel.
Effectivement, la lumière drague dans son sillage toutes les positivités, en fait, hein, d'un point de vue mythologique. La lumière, c'est le bien, c'est la foi, c'est le progrès. On en parlera certainement tout à l'heure, le progrès avec un grand P. Et puis face à ça, l'obscurité, c'est l'obscurantisme, c'est l'ignorance. Et puis là, je pense qu'on voit poindre dans cet extrait aussi la notion, et vous en parlerez demain, sur la question du travail de nuit, la question que la nuit est un temps à exploiter économiquement à partir d'un certain moment. Et donc on va éclairer. Avant, la nuit, c'était pour régénérer les forces vives du travail pour le lendemain. Et puis, à partir du moment où on a pu éclairer, on a pu travailler en 3-8, travailler 24 heures sur 24 et faire la ville 24 heures sur 24, comme l'a très bien montré un géographe comme Luc Gadzinski, par exemple.
Et c'est quelque chose qui est permis, effectivement, par l'extension de cet éclairage électrique. En France, la fin de la Seconde Guerre mondiale correspond à la fin des systèmes individuels de fourniture d'électricité. Pourquoi ce choix d'un réseau extrêmement centralisé, Anna Kriti ?
Après la Deuxième Guerre mondiale, on a une notion d'intervention forte de la planification et de la reconstruction. Donc il paraissait inévitable de concentrer cette fonction de amener la lumière dans une entité unique, pilotée également par l'État, qui puisse avancer et avoir une vision programmatique en fait de la diffusion de l'électrification. Donc on est passé d'une vision où il y avait des ressources très locales et parfois très inefficaces aussi, à une vision dans laquelle le système électrique est né. Donc ce système électrique, il est articulé sur plusieurs phases. Donc il y a la partie production, la partie réseau. Donc les deux demandent des investissements très lourds et très importants pour cela apporté par l'État. Et enfin, donc, atteindre le consommateur final ou l'usage productif final avec le réseau de distribution. Donc, on a cette notion de système électrique qui émerge.
Il y a effectivement le fait que ces équipements sont extrêmement chers et aussi la difficulté à stocker l'électricité qui fait qu'il faut en faire une énergie de réseau, Samuel Chaléa.
Oui, effectivement, la seule façon qu'on a de stocker l'électricité, c'est on stocke un potentiel, c'est l'hydroélectrique. Hein, c'est aujourd'hui à peu près la seule façon qu'on a à grande échelle de stocker indirectement l'électricité. Après, cette industrie de réseau, elle pose du coup des problèmes d'inégalité. On le voit en France, notamment avec des régions qui sont comme la Bretagne, comme le Sud-Est, hein, qui sont beaucoup plus sensibles du point de vue qu'ils sont en bout de réseau, etc. Je pense que a joué énormément, bien sûr, en France, le programme électronucléaire français dans la structuration de ce maillage électrique français. Et puis, on le voit encore aujourd'hui dans la gestion de l'éclairage public, effectivement, le poids des syndicats originellement d'électrification et puis désormais des syndicats d'énergie est très 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 important dans les jeux d'acteurs au niveau des territoires.
Aujourd'hui, l'électrification du monde se poursuit et certains pays d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Afrique ont vu leur consommation littéralement bondir depuis 30 ans, Anna Kriti.
Oui, parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'usage de l'électricité et plus en général de l'énergie est très fortement lié au développement économique. D'ailleurs, c'est une approximation très très forte, en fait, du degré de développement, donc l'intensité du PIB en énergie. Et jusqu'au problème dont on parlera sûrement plus tard, climatique, on n'a jamais pensé, en fait, les développements comme une forme aussi de sauvegarde de l'énergie. Au contraire, c'était plus de tout, plus d'énergie, plus de capital, plus de croissance. Et d'où donc les liens entre croissance démographique, économique et usage de l'énergie.
C'est aussi ce que dit la Banque mondiale.
One promising avenue to improve our understanding of economic activity comes from new technologies.
Une voie prometteuse afin d'améliorer notre compréhension de l'activité économique provient des nouvelles technologies. Par exemple, l'exploitation des données d'illumination nocturne provenant des images satellitaires. Regardez l'Asie du Sud. Regardez comme elle s'illumine au fur et à mesure qu'elle se développe. Et c'est quelque chose que nous observons pour tous les pays. Ce genre de données a d'énormes avantages. Les images satellitaires sont peu coûteuses à obtenir. Elles peuvent être obtenues presque en temps réel. Vous pouvez avoir des mises à jour tous les mois au kilomètre carré près et leur production n'est soumise à aucune sorte d'interférence.
Le chef Asie du Sud de la Banque mondiale, Martin Rama, c'était en 2017. En quoi ces images satellites, Anna Kriti, permettent-elles de mesurer très finement l'activité économique d'une région et dans quel cas spécifique est-ce que c'est particulièrement intéressant ?
Il est un peu optimiste hein, sur l'usage de ces données. C'est vrai que ces données existent. Après, ça n'en paraît pour faire des analyses économiques fines demande quand même un investissement non négligeable.
Et un croisement d'autres données peut-être.
Voilà, et c'est vrai que c'est là la source de leur intérêt. C'est-à-dire que aujourd'hui, à l'époque du big data, on a un peu cette obsession de dire on mesure tout et on a des données. Alors il y a un élément fondamental, c'est-à-dire que si on veut comprendre les phénomènes de croissance, on a justement cet indicateur qui est les PIB, dont la statistique est au mieux trimestrielle et la plus fiable, c'est celle annuelle, parce qu'elle est liée au cycle de production. Donc on a un rythme de production des données qui ne correspond pas à la dynamique des activités économiques. Et également, donc, pour citer la Banque mondiale, on a tous les enquêtes de la Banque mondiale qui ont aussi un rythme qui peut être même pluriannuel et donc qui arrivent un peu avec retard et qui ne permettent pas toujours de bien anticiper les phénomènes.
Alors que l'intensité lumineuse permet d'observer plus quotidiennement l'évolution
de
la croissance.
Alors oui, en effet, c'est en temps réel. Maintenant, quel est le défi, en fait, d'avoir une mesure en temps réel ? C'est que, justement, il faut voir qu'est-ce qui varie en temps réel. Donc les l'intensité lumineuse est encore une fois c'est un indicateur et l'enjeu pour l'économiste, pour les chercheurs, c'est de voir qu'est-ce qui varie en même temps et quel est le lien causal entre ces types de variations.
Mmh. Mais parfois c'est difficile de croiser les données précisément parce que on utilise cette possibilité, ce rythme d'intensification de la lumière dans les zones de conflit parce qu'on n'a pas d'autres données, Anna Créty.
Oui, disons que la vérification directe, bon déjà en général, les données sur les pays en développement se sont améliorées dans les temps, mais ne sont pas à un niveau de fiabilité comparable à celui des pays développés. Donc il y a déjà eu un processus d'amélioration. Et donc là, l'idée, c'est de substituer même ces sources officielles au moment où elles ne sont pas disponibles ou au moment où on ne peut pas faire les révélations statistiques de façon régulière, donc les remplacer par un outil technologique qui est les satellites. Et c'est vrai que c'est intéressant cette notion de libre accès parce que cela permet en fait des usages très différents de la même source d'information.
Mmh. Il faut dire, comme vous l'évoquiez, Anna Créty, que l'électrification encore insuffisante de certains pays constitue un frein au développement et c'est notamment le cas en Afrique. Ce qu'on constate, c'est que la capacité de production électrique a autant augmenté en 30 ans que la population, donc on a une stagnation.
Oui, disons que si on devait parcourir la période qu'on vient de un peu d'analyser pour la France avec le pétrole lampant, Victor Hugo et les progrès successifs, qu'est-ce qui s'est passé en même temps en Afrique? Pas grand-chose en effet. Une stagnation déjà du point de vue démographique, un continent dominé par les ethnies et très loin de ces programmes centralisés d'électrification qui sont arrivés beaucoup plus tard. Avec des notions aussi de monopole d'État, difficiles à porter économiquement, parce que justement, c'est vrai que l'État investit, mais néanmoins, il doit se financer quelque part. Donc, plonger dans un univers où les ressources sont faibles, les ressources sont faibles aussi pour créer des réseaux électriques.
Et concrètement, les défaillances d'électricité ont des conséquences, je pense en particulier aux menaces sanitaires que ça peut représenter pour les populations concernées, sans même parler des incendies qui sont causés par les bougies ou les lampes à pétrole à cause justement des coupures d'électricité.
Oui, on revient sur cette notion de électricité ou énergie en tant que bien public. C'est l'une des raisons pour lesquelles on décide en général de centraliser à la fois l'investissement et aussi toutes les caractéristiques de sûreté du réseau parce que il y a des fonctions essentielles. Vous avez cité donc les hôpitaux, les écoles, etc. qui dépendent en fait de l'expansion du réseau et après toutes les questions sanitaires. Et c'est d'ailleurs dans l'usage de l'électricité pour la lumière, mais aussi pour la cuisson, qui est aussi un problème très fort pour, ça l'est toujours, en Afrique.
Parmi les pays qui ont un réseau d'électricité très peu développé, on peut citer le Tchad, mais aussi Madagascar, où seuls 15% de la population a accès à l'électricité. Face aux insuffisances de l'État, des mini-réseaux se développent.
J'ai mis le panneau solaire sur le toit et là, il reçoit directement de la lumière et la batterie se recharge. J'en ai marre du délestage, c'est pour ça que j'ai acheté le produit ici. J'envoie de l'argent par téléphone et ensuite, je reçois un code par SMS qui va débloquer la batterie. Je le tape dans ce boîtier et ensuite, ça marche. Là, comme vous voyez, je branche mon téléphone et je peux allumer la lampe quand je veux.
Nous proposons que ces personnes y payent petit à petit pendant une période d'environ 1 à 2 ans. Ils payent un acompte pour recevoir le produit. Après, ils payent journalier, hebdomadairement ou mensuel. La personne peut choisir en fait à quel moment ils payent combien.
Anna Créty, quel est le modèle économique de ces mini-réseaux? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Les modèles économiques cités, vous n'aurez pas pu choisir un extrait plus intéressant pour moi. C'est justement cet accès au crédit via le téléphone mobile. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est face à un réseau public défaillant. Bon, Madagascar, c'est un cas probablement un peu extrême parce qu'il s'agit en plus d'une île. Donc, problème supplémentaire. Donc, face à ces réseaux défaillants et chers, très chers, il y a ces solutions alternatives qui se développent et qui permettent, qui ont plusieurs avantages. D'abord, la maîtrise justement du paiement. Ensuite, aussi la fiabilité du réseau parce que il y a une forme de stockage associée aux panneaux solaires et la possibilité d'avoir un usage qui est à la fois celui personnel, donc l'éclairage, et donc la transition vers un usage productif, parce que encore une fois, on a besoin de l'électricité pour produire.
Et cela grâce au fort taux d'équipement de la population africaine en téléphonie mobile.
Oui, donc la téléphonie mobile arrive à des taux de pénétration qui dépassent les 100%. C'est très intéressant de comparer les deux. On disait 15-20% pour l'électricité et plus de 100% pour la téléphonie mobile. Et on avait l'illusion, en fait, que l'électricité aurait suivi la même courbe d'expansion. Sauf que l'électricité et la téléphonie mobile ne sont pas les mêmes biens. On a besoin justement de la produire. Ce n'est pas seulement quelque chose qui passe dans les réseaux hertziens, c'est très physique. Donc grâce à la familiarité d'usage des téléphones mobiles, donc là on parlait des SMS, on n'a même pas le besoin d'Internet, pas besoin des smartphones, on a donc un crédit successif avec des paiements qui sont très 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 réduits et qui peuvent être gérés en fait par l'utilisateur par semaine ou par mois et qui permettent, qui débloquent en fait l'usage direct du panneau solaire ou du kit solaire. Et ceci est possible grâce à une technologie qui s'appelle mobile to mobile, donc qui relie en fait l'appareil au réseau de téléphone mobile et qui permet donc de déconnecter aussi l'usage en cas de défaut.
Et à la fin, cela permet aux usagers de payer l'intégralité de leur kit solaire.
Oui, en fait, c'est un crédit un peu particulier parce que ce n'est pas le microcrédit classique, parce qu'on accède en fait à la propriété du panneau solaire ou du kit solaire après le paiement donc de l'intégralité du crédit. Et ces kits solaires ou ces panneaux solaires continuent en fait à produire un service qui est celui justement de la production d'électricité. Donc, on n'a pas seulement l'achat d'un bien, mais on a l'achat d'un service.
Et alors, quel bilan est-ce qu'on peut tirer de ces mini-réseaux qui se développent, pas seulement à Madagascar, mais un peu partout en Afrique, Anakriti ?
Alors, c'est un peu inégal encore pour l'instant. Et si on devait faire un bilan, il y a beaucoup de promesses qui ne sont pas encore complètement réalisées, à mon avis. Parce que si on parle du panneau solaire ou du kit solaire individuel, je pense que l'idée, c'est de trouver en fait des fournisseurs qui ont un business model fort et fiable, parce qu'ils doivent quand même acheter tout l'équipement à l'avance. Donc, il y a un gros problème de trésorerie et de gestion vraiment d'une entreprise qui n'est pas simple, donc de gestion du capital et éventuellement de la recherche de fonds d'investissement d'une part, et d'autre part aussi la coopération avec les opérateurs de téléphonie mobile. Donc c'est à mettre en place et ça se généralise de plus en plus, mais on n'est pas encore sur l'intégralité de l'Afrique.
Et là où ça marche le mieux, c'est peut-être dans les zones rurales où il y a une faible densité de population
et... pas encore, justement, parce que, comme je disais, derrière, il y a aussi des entreprises qui doivent rentabiliser leurs investissements.
Donc, mais ce serait le plus approprié dans ces zones, c'est ce que je veux dire.
Ils vont s'exposer, effectivement, à la population rurale, mais une fois qu'ils ont une base déjà solide de clients qui sont en général en zone périurbaine. Donc, là aussi, on verra une phase, à mon avis, successive de développement. Et les mini-grids, qui sont des bijoux technologiques un peu plus complexes, demande aussi un problème, enfin, il faut les installer et il faut aussi les maintenir de façon correcte. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on pose et qu'on oublie.
C'est ça. Alors il y a aussi effectivement des problèmes de maintenance de ces installations qui peuvent se poser. Et dans ce cas, effectivement, ça, pour certains, c'est un argument en faveur d'une électrification qui serait davantage centralisée.
Le débat n'est pas encore clarifié, c'est-à-dire que on a aujourd'hui deux visions de l'électrification. L'une qui nous ramène justement à l'avant-deuxième guerre mondiale en France avec les approches un peu plus localisées, et l'autre qui dit non, on peut électrifier qu'en faisant les réseaux. Pour moi, c'est quelque chose qui se décide un peu au cas par cas. Parce que construire un réseau a un sens là où il y a des ressources. là où on a la possibilité de construire des centrales. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire, ça demande de longues années, de longs investissements, et ça demande aussi une capacité à payer chez les consommateurs finaux, parce que, voilà, c'est encore une fois, c'est un bien public. D'autre part, installer des mini-réseaux, là où on a quand même une ressource importante en termes d'ensoleillement, permet et facilite en fait la transition énergétique.
C'est un argument effectivement en faveur de l'écologie qui est essentiel, et il y a un certain nombre d'investisseurs qui en tout cas sont sur le pont pour développer à la fois ces mini-réseaux et à la fois des réseaux plus importants et plus centralisés. Qu'est-ce que ça vous évoque, Samuel Chaléa, cette avancée de l'électrification dans les pays africains ?
Alors moi, je suis effectivement pas du tout spécialiste des problématiques d'électrification. Par contre, je suis content d'entendre de la nuance dans le propos. Je baigne un petit peu dans ma thématique de recherche sur la pollution lumineuse, les effets négatifs de l'éclairage artificiel, dans la peur que, je cite quelqu'un sur votre antenne hier après-midi, dans la peur que l'Afrique s'allume, par exemple, avec des conséquences écologiques, sanitaires qui seraient désastreuses dues à la pollution lumineuse. Donc je suis content qu'on remette un petit peu, qu'on remette cet après-midi les choses dans l'ordre de priorité, si j'ose m'exprimer ainsi.
Et que ce développement de l'électricité puisse se faire de façon
voilà,
écologique.
Et qu'on n'ait pas cette vision un petit peu paternaliste et parfois néocoloniale de il faut pas que les pays en développement fassent les mêmes erreurs que nous, etc.
La pollution lumineuse, c'est en tout cas une question qui prend une importance de plus en plus grande dans le débat public. On en parle dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Roquigny.
Electricity de The Orchestral Manners in the Dark sur France Culture, d'Entendez-vous l'écho. Samuel Chaléa et Anna Kriti sont toujours avec nous pour parler des excès de l'électrification du monde et en même temps de ses limites. Alors tandis que l'électricité progresse lentement dans certaines régions du monde, d'autres se plaignent au contraire de la surabondance de lumière artificielle. À quand remonte, Samuel Chaléa, la prise de conscience du phénomène de pollution lumineuse ?
Alors l'émergence dans le débat public de cette question, elle se fait aux États-Unis dans les années 1950-1960, hein, qui est la période d'étalement urbain massif, et puis d'arrivée vraiment forte de l'automobile dans la ville. Donc ce sont d'abord les astronomes professionnels qui vont s'inquiéter en fait de la disparition de leur objet d'étude, le ciel étoilé, puisqu'ils ont localisé leurs observatoires pas forcément de façon très très loin des villes, et donc du coup quand le front d'urbanisation va avancer, leur observatoire va se voir grignoté par la lumière artificielle.
Et bien justement, avant de poursuivre, je vous propose d'écouter l'astrophysicien Hubert Reeves nous en parler.
On a perdu, les êtres humains ont perdu cette sensation de se sentir appartenir au ciel. On dit que les êtres humains, on leur a enlevé le ciel d'une certaine façon. Et là, il y a une très grande perte, je pense, qui est ce rapport intime, émotif, sur le plan émotif, de regarder le ciel par une belle nuit étoilée. Et le premier problème, c'est évidemment pour les astronomes eux-mêmes. Les astronomes cherchent à faire des instruments extrêmement puissants qui peuvent capter des lumières extrêmement faibles, donc qui peuvent voir extrêmement loin, des galaxies, des amas de galaxies. Et depuis quelques années, beaucoup de ces télescopes, par exemple, sont en perte de vitesse. Ils pouvaient voir, il y a 50 ans, des astres qu'ils ne peuvent plus voir aujourd'hui. Et on va au Chili, dans le désert de l'Atacama, un des endroits les plus sombres de la planète. On va en Hawaï, on va en Afrique du Sud. Il faut des endroits qui sont à au moins 500 km du premier village.
Ce que l'on entend ici, Samuel Chalea, c'est qu'il est de plus en plus difficile d'apercevoir des astres aussi à cause de la profusion des satellites dans l'espace nocturne.
Alors il y a effectivement deux choses, et puis la question des satellites émerge aujourd'hui, elle est un petit peu à la mode avec notamment les constellations Starlink lancées par Elon Musk actuellement, qui vont à terme générer un risque de créer des myriades de petits points lumineux dans le ciel et qui posent de réels problèmes pour l'astronomie professionnelle, pour l'astronomie amateur. Il faudrait aussi parler du brouillage du ciel par les rayonnements électromagnétiques, hein, qui gênent une part de l'astronomie, la radioastronomie. Mais le problème de la pollution lumineuse est un petit peu différent. Enfin, la pollution lumineuse générée au sol par l'éclairage artificiel nocturne est un petit peu différent. C'est véritablement un problème là qui dépasse le seul ciel étoilé des astronomes aujourd'hui. C'est un problème plusieurs champs scientifiques nous montrent qu'en fait c'est l'obscurité qui devient une ressource et qui devient quelque part un bien public pur là aussi, qui est mis en rivalité avec l'autre bien public pur qui est l'éclairage artificiel. Cette obscurité, elle fait ressource du point de vue écologique, du point de vue sanitaire, mais également du point de vue socio-culturel. On l'a vu sur les aspects scientifiques, mais aussi pour tout un chacun en termes d'émerveillement, de capacité à observer le ciel étoilé.
Alors pour bien comprendre, quelles sont les conséquences, les nuisances qui sont provoquées par l'excès de lumière artificielle, Samuel Chalea?
Alors j'ai pour habitude de les classer en trois grands registres. Le premier registre, ce sont les nuisances justement sur les aspects socioculturels, la perte de visibilité du ciel étoilé et la perte du rapport expérientiel à l'obscurité, à la nature obscure. C'est-à-dire que on a des enfants aujourd'hui qui ont grandi dans des villes qui sont suréclairées et qui ne connaissent pas cette nature obscure, cette obscurité naturelle et tous les processus écologiques et qu'on peut directement observer, hein. Entendre par exemple un paysage nocturne du point de vue sonore dans l'obscurité est bien plus riche qu'un paysage nocturne sonore dans nos villes. On a ensuite le deuxième registre d'effets négatifs de l'éclairage artificiel nocturne, sont le registre écologique. Donc là on a tout un panel d'effets qui commence à être véritablement bien documenté sur les oiseaux migrateurs, sur les insectes. On a en fait des effets d'aspirateur autour des points de lumière artificielle, et puis des espèces animales qui sont entravées dans leur déplacement, dans leur capacité de reproduction, dans leur capacité de prédation. Voilà, donc tout un panel d'effets écologiques. Et puis, dernier registre, le registre sanitaire. Là, c'est la chronobiologie et la médecine du sommeil qui nous montrent qu'en fait, notre corps humain a besoin de cette alternance naturelle entre lumière et obscurité pour recaler son horloge biologique interne et pour enclencher des processus physiologiques, notamment la sécrétion de la mélatonine, par exemple, qui est une hormone bien connue, l'hormone de la nuit.
Ce qui est mis en cause, notamment, c'est l'efficacité ou l'utilité de certains éclairages publics, Samuel Chalea.
Et oui, mais là, on en vient à la question du éclairer mieux ou éclairer bien. C'est quoi le mieux, c'est quoi le bien? Si le mieux ou le bien, c'est d'atteindre toujours une plus grande efficience ou efficacité énergétique, alors il n'y a pas de doute, on éclaire depuis des décennies toujours mieux. On va vers le mieux, et la LED, la technologie, technologie des diodes électroluminescentes aujourd'hui nous permet d'aller vers le mieux. Si par contre, dans le mieux et dans les coûts de l'éclairage artificiel nocturne, on ne se limite pas seulement aux coûts énergétiques et monétaires, et on fait rentrer les coûts écologiques, sanitaires et socioculturels, alors la question du mieux, elle est complètement à revoir.
C'est un débat qui est en tout cas ouvert, et le ciel étoilé, s'il est devenu rare, est peut-être devenu plus cher. Alors la question, c'est à qui appartient cette ressource? C'est la question que se pose le Petit Prince lors de sa rencontre avec le businessman. Écoutons un extrait lu par Bernard Giraudot.
Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 131. Je suis sérieux, moi je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas, ils règnent sur, c'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? Mais achetez d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il raisonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta grincheux le businessman. Je ne sais pas. À personne? Alors, elles sont à moi. Elles sont à moi. Car j'y ai pensé le premier.
Elles sont à moi car j'y ai pensé le premier. Voilà qui pose une question essentielle, Samuel Chaléa. Le ciel étoilé peut-il être monétisé?
Merci de cet extrait. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? On a un article avec mon collègue économiste Thomas Pouvéon qui vient de paraître, qu'on a intitulé « Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles ?» Parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a des territoires entiers qui vont s'organiser pour faire quelque chose de 500 millions d'étoiles et qui par là vont rentrer dans un processus de valorisation de l'obscurité et du ciel étoilé. Alors, le ciel étoilé, c'est un bien d'un point de vue économique un peu particulier. Il n'est pas produit, il n'est pas productible par l'homme, il est non exclusif, non rival, mais par contre, il a, on sent bien, une valeur d'usage. Hein. On peut rentrer par là et puis on voit bien qu'il nous apporte, l'obscurité nous apporte ou génère ou crée des services écosystémiques du point de vue écologique, du point de vue sanitaire, on l'a vu. Et donc il y a des acteurs qui, aujourd'hui même, s'organisent pour mettre le ciel étoilé en réserve, voilà, et créer des réserves internationales de ciel étoilé, par exemple. Et donc, on est dans un processus de valorisation, voire de valuation, indirectement, de cet objet environnemental, de ce bien environnemental un peu atypique qu'est le ciel étoilé.
Et c'est comme cela que un certain tourisme de la nuit se développe avec des labels dédiés.
Voilà, des labels dédiés, des activités récréatives qui prennent l'obscurité et la nuit pour support. Alors ça va de la nuit de la chouette à la nuit des étoiles, mais ça va jusqu'à, on l'a vu tout à l'heure, des réserves internationales de ciel étoilé qui entendent générer du point de vue du tourisme un nouveau segment touristique, une filière nuit, une filière ciel étoilé. On a en France aujourd'hui, par exemple, de trois réserves internationales de ciel étoilé. La première, la plus connue, est autour de l'observatoire du Pic du Midi. Et vous montez aujourd'hui l'observation de la voûte céleste et l'observation des paysages nocturnes depuis le sommet du Pic du Midi est devenue un nouvel objet touristique. Et vous pouvez payer 90 euros pour passer quelques heures en début de soirée sous la voûte céleste et regarder le ciel, jusqu'à 500 euros pour passer la nuit entière sous le ciel étoilé.
Donc, et ça marche parce que 60% des Européens et 80% des Américains, je crois, ne peuvent pas apercevoir aujourd'hui la Voie lactée.
Et bien sûr, la question de la valeur, comme souvent, émerge à partir du moment où on perd quelque chose. C'est à partir de ce moment-là où on va prendre conscience de sa valeur, où on va tenter de le valoriser. On retrouve le même processus dans le cadre d'analyse des services écosystémiques en lien avec l'effondrement de la biodiversité. C'est là où on va essayer de dire bon, il faut qu'on mette une valeur sur les services rendus par la nature à l'homme pour faire prendre conscience de ce qu'on est en train de perdre. Et là, l'obscurité, le ciel étoilé, c'est exactement la même chose. C'est en réaction à son érosion par l'éclairage artificiel nocturne que, dans les pays du Nord, émerge ce Dark Sky Movement, ce mouvement pour la protection du ciel nocturne qui entend dire dans l'espace public, regardez ce que nous sommes en train de perdre a une valeur. Il a une valeur pour l'astronome, ça a une valeur pour les non-humains, d'un point de vue écologique, ça a une valeur du point de vue sanitaire, mais ça a une valeur pour tout un chacun en termes d'émerveillement, en termes de quasiment une valeur éthique et morale.
Qu'est-ce que ça vous évoque, Anakriti, cette idée d'une surabondance de lumière artificielle contre laquelle il faudrait se battre dans des pays où on serait allé trop loin dans nos pays?
Je suis à la fois émerveillée et préoccupée. Dans la mesure où je comprends en fait ces besoins de sanctuariser le bien, voilà les 500 millions milliards d'étoiles, donc et cette ressource qui est représentée par l'obscurité, la relation entre l'homme et l'obscurité, mais aussi préoccupée par l'introduction de cette valeur marchande. Est-ce que dans votre raisonnement du mieux, est-ce que on a les 500 euros que ça va coûter le fait de passer la nuit
c'est assez excluant.
Étoilé, voilà, exactement. Et puis, c'est vrai que la comparaison avec les services écosystémiques et donc tout ce qu'on essaye avec très grande difficulté de mettre en place dans les logiques de développement durable, cette parallèle, il arrive quand même un peu à être à l'étroit dans la mesure où quand on a cette approche un peu de conservation, on les fait parce qu'il y a une valeur et un chaînon manquant dans une, par exemple dans une chaîne de production ou de reproduction si on parle de l'univers animal. Là, je me demande en fait quel type de phénomène on est en train de cibler. Donc effectivement, il y a une valeur qu'on appelle en économie une valeur un peu de récréation de l'espace. Donc ça peut effectivement avoir une valeur. Il y a cette valeur, entre guillemets, sur la santé, mais encore faut-il savoir quel est vraiment le lien direct, qu'est-ce qu'on a perdu et comment, en fait, on peut les récupérer. Donc j'ai peur que ça ouvre un peu les flancs à une exploitation marchande d'un rêve.
Il y a un risque réel, Samuel Chalea?
Ah, mais il y a un risque qui est plus que réel, que l'on observe avec mes collègues. Et je tiens à vous rassurer, on joue notre rôle de chercheur scientifique là-dessus. On reste très critique. Je commence la conclusion de mon bouquin, Sauver la nuit, par une citation de Günther Anders où il dit, en fait, il y a une espèce d'incompétence commerciale du cosmos parce que on est incapable d'intégrer la voie lactée dans les biens économiques. En fait, ce que font les acteurs économiques dans les territoires quand ils mettent le ciel en réserve internationale de ciel étoilé, c'est bien une mise en marché de la voie lactée. Donc ça y est, on y est. Donc effectivement, c'est très fortement critiquable. Par contre, on est aussi en capacité de générer d'autres formes de valeurs. Il y a d'autres approches que l'approche purement utilitariste. Il y a tout un gradient entre l'économicisation de l'écologie et l'écologisation de l'économie. Et on voit dans les territoires, en fait, qu'il y a tout un panel de trajectoires territoriales qui sont prises.
Et justement, c'est l'écologie qui rassemble à la fois cette volonté de développer davantage l'électricité dans les pays en développement et de restreindre peut-être une pollution lumineuse excessive dans les pays du Nord. Ce qu'on constate sur le continent africain, Anakriti, c'est que malgré le développement des mini-réseaux dont on a parlé tout à l'heure, la production d'électricité renouvelable peine à se développer.
Oui, en fait, là, on a un peu l'idée que les panneaux solaires peuvent se multiplier comme ça, sans effort, et que c'est justement la solution à l'électrification. Ça a peut-être été le cas dans certains pays, par exemple en Amérique latine, où pour atteindre les taux d'électrification 100%, on devait passer de 85 à 90 à 100%. Donc on a fait, entre guillemets, le développement à la marge, avec au lieu de miser sur l'extension du réseau, porter ces solutions localisées.
Mais quand on part de 15% comme à Madagascar, c'est plus compliqué.
Oui, c'est plus compliqué. Et après, donc ça, on le voit de toute façon, si on regarde à l'échelle un peu mondiale, ce qui est intéressant dans les cadres en particulier de l'énergie renouvelable et des panneaux photovoltaïques, c'est leur croissance exponentielle à niveau mondial, mais leur place dans les mix est encore relativement faible.
Et cela, c'est aussi parce qu'il faudrait des investissements considérables en Afrique, notamment étant donné les prévisions démographiques.
Oui, dans des pays comme par exemple le Nigeria, qui va être quelque part la nouvelle Chine, c'est sûr qu'on ne peut pas garantir toutes les propriétés de l'électricité en misant que sur les panneaux solaires. Donc, il y a vraiment un intérêt à avoir un mix tout en gardant un œil très attentif aux émissions. Donc là, on est vraiment sur un mode nouveau d'électrification.
Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'investisseurs privés qui se lancent dans la bataille, comme le géant français Engie.
L'Afrique a des ressources solaires quand même très très importantes, éolien aussi. Nous allons aller beaucoup plus vers ces solutions que de partir sur des solutions hydrocarbures. L'objectif, c'est vraiment de représenter une part significative des revenus du groupe Engie dans le futur. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est multiplier par 5, par 10 plutôt dans les années à venir. C'est un marché extrêmement important pour nous, c'est un marché stratégique parce que, on peut quand même amener énormément de solutions, on peut aider la population. Donc ce qui est important aussi pour nous, c'est d'avoir un impact social important. On peut développer aussi, c'est que toutes nos activités, on le développe quand même beaucoup avec des locaux. Donc créer un écosystème et créer de l'emploi, mais aussi exporter les solutions africaines.
Un marché extrêmement important pour les entreprises françaises, mais aussi et surtout peut-être pour les entreprises chinoises, Anna Kriti.
Oui, là aussi, je continue sur mon émerveillement et ma préoccupation appliquée à autre chose. Mais oui, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a un potentiel de transfert technologique énorme et le transfert technologique est une forme aussi de partage du développement. Parfois, je me demande en fait, les grands groupes français, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, parce qu'ils auraient pu avoir cette fonction probablement un peu avant, un peu en amont, et étant donné aussi les relations économiques et historiques.
Or, ils ont pris beaucoup de retard par rapport aux Chinois.
Avec, oui, toute la partie de l'Afrique, notamment francophone, et qui a attendu effectivement qu'il y ait une secousse qui vienne plutôt des investisseurs chinois. Alors, les investisseurs chinois sont devenus, comme dans d'autres secteurs, dans d'autres zones du monde, des acteurs clés du développement parce qu'ils sont des bâtisseurs d'infrastructures, je les appelle comme ça. Ils arrivent avec des projets clés en main, ils arrivent en force, ils ont une capacité aussi de négociation et de partage en fait de la rente qui est un peu particulière et ils arrivent avec l'équipement. Donc notamment avec dans les cas spécifiques des panneaux solaires, c'est quand même les leaders dans le monde. C'est grâce à leur production que le coût des panneaux solaires a énormément baissé et donc que ça a démocratisé quelque part les panneaux solaires, aidé quand même par les subventions que les pays développés ont donné à cette pour miser dans le futur à cette énergie. Et donc ils arrivent avec ces solutions clés en main. Ils identifient les sites, ils construisent les fermes solaires. Ils électrifient et après, voilà, ils répartent.
Ils construisent des fermes solaires, mais ils investissent encore davantage dans de la production d'électricité polluante sur le continent africain.
C'est quand même des exploitants.
Est-ce que c'est plus rentable?
Aujourd'hui, c'est clair que le charbon n'est pas cher, le gaz plus ou moins, et tant qu'il n'y aura pas l'intégration des externalités environnementales dans ces ressources, ça reste quand même plus rentable, et avec un modèle économique qui a fait ses épreuves pendant des centaines d'années.
Est-ce que c'est l'enjeu écologique, Samuel Chala, qui du côté des pays du Nord incite à lutter davantage en parallèle contre la pollution lumineuse, avec cette idée qu'il faut une régulation par les pouvoirs publics?
Je pense qu'il y a plusieurs fenêtres d'opportunité politique qui ont été saisies dans le mouvement qui a permis à la puissance publique de se saisir du problème de la pollution lumineuse. La première fenêtre d'opportunité politique, il faut pas se leurrer, ce ne sont pas les papillons de nuit ou les étoiles, c'est effectivement les questions budgétaires et énergétiques. Ceci étant, on voit depuis 4 ans maintenant et l'arrivée de la notion de nuisance et de pollution lumineuse dans la loi biodive et reconquête des paysages, l'enjeu en termes d'effondrement de la biodiversité et d'effets écologiques de l'éclairage artificiel nocturne est un enjeu fort et pousse les territoires véritablement à agir. Donc on a parlé de réserves de ciel étoilé, c'est un modèle d'action contre la pollution lumineuse, il en existe bien d'autres qui sont plus éco-centrés. Je pense par exemple à l'idée d'une trame noire, à l'image de la trame verte et bleue pour lutter contre la fragmentation des habitats par nos routes, nos voies ferrées, etc. On est en train, avec plusieurs territoires, et notamment je pense à l'interparc du Massif Central, avec les différents parcs du Massif Central, de réfléchir à territorialiser la lutte contre la pollution lumineuse d'un point de vue très éco-centré, pas du tout d'un point de vue très matérialiste pour aller vers des labels, voilà, mais bien en pensant aux enjeux biodiversité et de bien-être aussi pour les habitants avant tout.
Et il y a eu un arrêté le 27 décembre 2018 qui est entré en vigueur début 2019 pour lutter justement contre cette pollution lumineuse. Qu'est-ce qu'il prévoit, Samuel Chalea?
Alors il est entré pleinement en vigueur il y a pas si longtemps, le 1er janvier 2020. Il prévoit, en fait, on reste là dans le solutionnisme technique classique, hein, face au problème. En fait, on règle le problème par des zonages sur le territoire. On va le traiter déjà différemment en agglomération, hors agglomération. Donc ça pose problème parce que les enjeux sanitaires, par exemple, de l'éclairage artificiel nocturne aujourd'hui, ils sont en agglomération. Ils sont pas dans les zones cœur de parcs nationaux ou dans les parcs naturels régionaux. Et puis on va le traiter par des approches très techniques. On va limiter les intensités lumineuses. On va limiter les températures de couleur installées. On va réguler la photométrie, c'est-à-dire l'orientation du flux lumineux dans l'espace. Donc c'est bien, il faut le faire, mais et puis je pense que la première question à se poser, c'est quels sont nos besoins aujourd'hui de lumière. Ai-je besoin à cet endroit-là? C'est la question que doit se poser un élu. Ai-je besoin de ce point lumineux?
Mais c'est des questions qui sont soulevées par un certain nombre de municipalités qui tendent à réduire l'éclairage public.
Complètement. Il y a de plus en plus de municipalités qui utilisent le potentiel qu'a l'éclairage artificiel, c'est-à-dire d'être régulé dans l'espace et dans le temps assez facilement. Une route, vous l'enlevez pas de l'espace quand elle n'est pas utilisée. Alors que l'éclairage public, quand vous en avez pas besoin ou moins besoin, vous pouvez l'éteindre ou le diminuer. Donc ça, c'est effectivement une solution technique qui est très importante, mais voilà, il faut regarder le problème global. La question n'est pas seulement technique, la question elle est socio-technique en fait.
Et c'est une solution qui permet aussi aux municipalités de faire un certain nombre d'économies. Un dernier mot sur le rapport que nous entretenons avec la lumière artificielle. À la fois c'est une opportunité économique et en même temps cela entraîne des nuisances de moins en moins tolérées, Anna Créti.
Oui, c'est vrai que dès qu'on touche aujourd'hui les mots pollution, on a tout de suite un certain nombre de réflexes qui se mettent en place. C'est-à-dire, est-ce que il faut consommer moins, consommer mieux, en fonction de quoi? L'idée est toujours celle de donner la vraie valeur en fait aux usages et à la consommation.
Samuel Jalléam.
C'est exactement ça. C'est comment on va vers cet équilibre et quels indicateurs et quelles sources d'informations on génère pour cheminer vers cet équilibre entre lumière artificielle et obscurité. Lumière artificielle dont on a intrinsèquement besoin. Il faut pas se voiler la face.
Parce que c'est important de se demander pourquoi quelqu'un comme Terry Galloway, un économiste, s'interroge sur le ciel étoilé comme un atout culturel. Samuel Chalea, on voit que c'est une réflexion qui est assez ancienne.
Alors c'est une réflexion qui est ancienne. Les travaux de Galloway sont intéressants, mais ils restent dans des approches, des quantifications par les outils assez classiques de l'évaluation contingente, etc., du consentement à payer. Ce qui est intéressant, c'est de voir et au travers de l'action des territoires, de voir quelles autres formes de valeurs que les valeurs monétaires émergent et quelles autres formes de valeurs les gens attribuent à l'obscurité, à une obscurité préservée. On est en train de travailler, et on espère être financé par le CNRS, on a déposé un projet là-dessus, sur la place de l'obscurité dans la culture réunionnaise, ce fameux fait noir, hein, qui a des dimensions métaphoriques, qui a des dimensions culturelles très très fortes, avec un territoire qui a été électrifié et surtout éclairé très rapidement. Donc on a encore une mémoire vivante d'un point de vue culturel sur ce territoire obscur. Et donc là, on va essayer de travailler là-dessus sur les valeurs culturelles que les gens placent dans l'obscurité.
Et bien justement, c'est ce que nous allons aussi essayer de faire toute cette semaine, faire la lumière sur cette obscurité. Un grand merci à tous les deux. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Début des débats au Parlement au sujet de la réforme des retraites. Outre l'âge pivot qui sera de nouveau en débat, le projet arrive devant les députés avec un certain nombre d'inconnus.
Oui, trois principalement. Les critères de pénibilité d'abord, en négociation. Le financement de la remise à l'équilibre du système d'ici 2022, également en négociation. Et puis la valeur du point. La semaine dernière, le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski demandait à l'INSEE de créer un nouvel indice indice de référence sur lequel baser le calcul de son évolution, calcul plus avantageux, assurait-il, que le système actuel, mais en tout cas contesté par un comité de mobilisation d'une cinquantaine de statisticiens de l'INSEE. N'en reste pas moins que cette cinquième réforme en moins de 30 ans était censée assurer, comme les quatre précédentes, l'équilibre financier, alors que les conditions démographiques se durcissent avec le vieillissement et il y aura forcément des perdants, mais tout dépend la manière, explique Didier Blanchet, économiste à l'INSEE et directeur, ou plutôt président du comité de suivi des retraites.
Il faut rappeler le point de départ, hein, quand on a commencé à réformer le système des retraites, les dépenses de retraite c'était à peu près 11,5 de PIB, et si on n'avait rien fait, elles seraient montées à 19-20%. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé avec les réformes passées à un mix où elles se stabiliseraient à peu près à 14%, et puis le reste devait être géré par un décalage de l'âge de la retraite. Si on avait fait que des mesures d'âge dès le départ, il aurait fallu monter à 69-70 ans, donc avoir géré ça avec un mix où c'est 64 ans pour l'âge de la retraite, plus un décrochement au niveau de vie relative des retraités, plus une dépense de retraite qu'on a laissé monter jusqu'à 14 points de PIB, ça paraît un compromis qui était quand même plus réaliste. Donc on a généré dans le système une dépendance à la croissance, ça alimente par exemple le fait que les projections du corps soient sans arrêt un peu pas forcément validées par les évolutions futures, ça tient à ça, c'est le fait que la croissance n'est pas celle qu'on avait attendue. Sur l'argument que le revenu moyen c'est justement une moyenne donc qui cache plein de disparités, en fait l'inflation c'est pareil. Alors indexé sur les salaires c'est plus généreux a priori, le problème c'est que si vous voulez faire ça à enveloppe constante, il faut que ce soit compensé par d'autres mécanismes d'ajustement.
Ces mécanismes d'ajustement, c'est ce sur quoi se concentre en ce moment le gouvernement.
Oui, là pour l'ensemble du système, une série d'amendements, par exemple, proposés vendredi concernant les femmes dans le futur système, des garanties sur la majoration des droits familiaux en cas d'enfant ou cette fameuse pension de réversion en cas de décès d'un conjoint. Reste aussi, donc je le disais, les négociations sur la pénibilité. Des marcheurs se plaignaient la semaine dernière de leur peu de progrès. Se dessinerait en tout cas, en somme, un système plus semblable, dit Didier Blanchet, à celui des années 80-90, les régimes spéciaux en moins, et plus dépendant de l'augmentation des salaires que de la croissance elle-même, à savoir quel est le plus sûr.
On passe aux brèves et les hésitations de la croissance, on en parlait. Elle pourrait conduire l'Union européenne à réviser sa fameuse règle d'or budgétaire.
Oui, réunion des ministres de l'Eurogroupe cet après-midi à Bruxelles au sujet de cette règle de neutralité budgétaire qui impose aux États un déficit et une dette maximum de respectivement 3% et 60% du PIB. Elle pourrait donc être modifiée, laisse entendre un document obtenu par Reuters, afin de générer une posture assurant plus de soutien à l'échelle agrégée, comprenez favoriser la relance alors que les craintes de croissance faible, voire de récession augmentent dans certains pays européens, notamment l'Allemagne, on le voyait vendredi, pourtant farouche protectrice de cette règle d'or ces dernières années.
Autre contre-pied pour l'Union européenne, la fusion annoncée entre les entreprises ferroviaires françaises Alstom et le canadien Bombardier.
Oui, un communiqué qui confirme aujourd'hui les rumeurs de ces derniers jours de potentielle acquisition de Bombardier Transport par Alstom pour à peu près la valeur de son chiffre d'affaires l'année dernière, 7 milliards d'euros. Ironie de l'affaire sur le plan européen, le groupe deviendrait un des champions capables de concurrencer le chinois géant CRCC Corp Ltd qui gagne des marchés partout, alors même que l'Union européenne avait refusé, on s'en rappelle l'année dernière, la fusion entre Alstom et Siemens. Et puis pour les relations franco-canadiennes, une affaire intéressante ou embarrassante, alors qu'Airbus avait acquis il y a un peu plus d'un an la branche aviation de Bombardier.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre journal de l'écho est disponible à la réécoute sur franceculture.fr et sur toutes les applications de podcast. À demain. My Name is Dark de la chanteuse Grimes, dont on remercie de nous adresser ainsi que ce clin d'œil avec son dernier titre. Merci beaucoup Samuel Chalea et Anna Créti de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je rappelle les titres de vos ouvrages, Samuel Chalea, Sauver la nuit, paru aux éditions Premier Parallèle, et Anna Créti, c'est un ouvrage en anglais, Economics of Electricity, publié chez Cambridge University Press. Merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Alain de Recourt, à la réalisation Émilie Valla, à la technique aujourd'hui Souad Boukorsa. Demain, nous suivrons les pas des travailleurs de nuit. Nous serons en compagnie de Béatrice Barthes et de Marc Loriol. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.